historiquement vôtre.
Le récit.
Oui, vous parlez, Mathieu, de l'une des romancières françaises les plus connues dans le monde. Marguerite Yourcenar, auteure notamment des mémoires d'Adrien et de l'œuvre au noir. Le 22 janvier 1981, Marguerite Yourcenar est effectivement la première femme à intégrer l'Académie française. Le jour de son entrée officielle, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, se tient au premier rang. L'événement est tel qu'il est retransmis en direct à la télévision et à la radio.
Madame, c'est une grande joie pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette vieille et illustre maison où vous êtes, non pas certes le premier venu, mais enfin la première venue. Une espèce d'apax du vocabulaire académique, une révolution pacifique et vivante, et où vous constituez peut-être, à vous toute seule, un des événements les plus considérables d'une longue et glorieuse histoire.
Vous venez d'entendre son ami Jean d'Ormesson qui lui avait d'ailleurs conseillé d'envoyer sa candidature. C'est avec lui, académicien renommé, que Marguerite Yourcenar pénètre sous la coupole de l'Académie Bondé-de-Monde ce jour-là. Elle porte une houppelande et une longue jupe de velours noir, tandis qu'un voile blanc encadre son visage. C'est l'empereur du style, Yves Saint-Laurent, qui a créé la tenue de cérémonie de Marguerite Yourcenar, une tenue qui a son importance. L'écrivaine a en effet refusé de porter l'habit militaire traditionnel de ces messieurs, ainsi que l'épée d'académicien. Sous les roulements de tambour de la garde républicaine, la grande dame de 77 ans fait une entrée majestueuse dans l'histoire de France et de la littérature en devenant une « immortelle », comme on appelle les membres de l'Académie française. Ce surnom vient de la devise « à l'immortalité » qui leur a été donnée par leur fondateur de l'Académie au XVIIe siècle, le cardinal de Richelieu. Si elle y est entrée, il semble que Marguerite Yourcenar n'ait pas été très assidue à l'Académie française. Avant son élection, déjà, elle déclarait « N'allez surtout pas donner l'impression que je suis saisie de la fièvre verte ». C'est un rappel à l'habit des académiciens, il n'y avait pas encore Europe Écologie des Verts. « J'ai indiqué que je ne ferai pas acte de candidature, que je ne ferai pas de visite, que je ne m'engagerai pas à passer un temps déterminé en France ». Et pourtant, Marguerite Yourcenar a postulé quelque temps plus tard, mais c'est vrai qu'elle habitait aux États-Unis à cette époque-là et qu'elle y est restée.
Qu'est-ce que vous racontez, Stéphane, on a l'impression qu'elle était pas, qu'elle a été poussée un peu à se présenter.
Elle a été poussée par Jean d'Ormesson, c'est exact.
Voilà, lui, et toute seule, sans Jean d'Ormesson, probablement, elle n'aurait pas postulé.
Absolument. Et c'est vraiment lui qui a fait son élection. Il voulait absolument qu'il y ait une femme qui entre à l'Académie. C'est un très beau symbole. Mais ce n'est pas ce que l'histoire a retenu. Au milieu des académiciens, alors intellectuels, écrivains triés sur le volet, Marguerite Yourcenar a désormais pour mission d'encadrer la langue française. Il faut dire que la langue française n'a plus aucun secret pour Marguerite Yourcenar. Elle écrit depuis très longtemps, très longtemps. Yourcenar est l'anagramme de son vrai nom, Marguerite de Crayoncourt. L'écrivaine choisit ce pseudonyme à l'âge de 18 ans, en 1921, quand son père, pour son anniversaire, fait éditer son premier livre, Le Jardin des Chimères. Le père de Marguerite Yourcenar l'élève seul, sa mère étant morte en lui donnant naissance. Il encourage la vocation littéraire de sa fille, cultive sa curiosité. À 21 ans, lors d'un séjour à Rome, il lui fait découvrir les ruines de la villa de l'empereur Adrien. C'est un déclic pour la jeune Marguerite Yourcenar, qui nourrit dès lors une véritable fascination pour cet empereur. Des années plus tard, en 1951, elle lui consacre un livre, « Les célèbres mémoires d'Adrien », mêlant faits historiques et fiction. 50 ans après sa publication, en 2002, ce roman sera d'ailleurs élu par un jury international d'écrivains comme l'un des 100 meilleurs livres de tous les temps. Pas étonnant que les célèbres mémoires d'Adrien intéressent encore aujourd'hui. Je vous le recommande, hein, si vous ne l'avez pas lu.
C'est un
chef-d'œuvre.
Absolument à lire, oui, avant toute chose. Peut-être même avant Guillaume Musso, et je m'avance peut-être un peu,
oui. Et ça ouvre l'esprit sur les mœurs.
Des mœurs qui vous plaisent particulièrement, Stéphane.
Non, j'ai pas dit ça.
Vous l'avez dit.
Un temps de la Rome antique où on était très tolérant sur beaucoup de sujets.
Très tolérant.
L'est un peu moins aujourd'hui.
Un chouïa moins.
Marguerite Yourcenar, disais-je, est une femme en avance sur son temps, une femme libre. Et cette liberté, elle l'a prouvée toute sa vie, et notamment dans sa vie privée. En 1937. Marguerite Yourcenar rencontre Grace Frick, une jeune américaine dont elle tombe follement amoureuse. Elles emménagent ensemble dans le Maine, aux États-Unis, hein, c'est pas le Maine en France.
Oui, c'est plus glamour alors.
C'est à la frontière du Canada. C'est très beau d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Bernard Pivot était allé faire une émission dans la maison du Maine de Mario Turzan.
Je ne les ai pas nés, mais je vous crois sur parole.
C'est magnifique. On la retrouve sur, vous savez, sur cette chose qu'on appelle YouTube.
D'accord, j'irai voir, j'irai jeter un œil.
Chaque dimanche, voisins et amis sont invités à prendre le thé. Lors de ces goûters, on écoute de la musique folk et on débat de l'actualité. Marguerite et Grace étant fermement engagées contre la ségrégation raciale et la guerre du Vietnam. Dans leur jolie maison en rondin, Marguerite et Grace sont écolos avant que ce ne soit à la mode. Elles vivent en communion avec la nature, installent un bac à compost, bannissent engrais et pesticides industriels dans leur jardin. L'écrivaine est aussi une ardente défenseuse des animaux et elle est végétarienne. À 95%, c'est elle qui le dit.
Comme quoi, l'habit vert lui allait à merveille.
À merveille. Marguerite Yourcenar n'a pas eu d'enfant. Mais c'est toute la jeunesse que l'écrivaine soutient. En mai 68, de passage à Paris, elle observe avec bienveillance les mouvements d'insurrection étudiants. Je ne me sentais pas l'énergie de faire des kilomètres à pied, mais c'était passionnant. Des réformes pouvaient se faire, le monde pouvait changer en partie, écrit-elle. À la même époque, son roman L'œuvre au noir est un triomphe. La critique l'encense, le public l'adore. Une popularité qui ne s'est jamais démentie, bien au contraire.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Historiquement vôtre continue chaque jour, trois personnages pour une thématique. Aujourd'hui, nos trois personnages sont tous à leur manière des immortels. L'écrivaine Marguerite Yourcenar l'est depuis son entrée à l'Académie française. Et Stéphane, vous nous disiez que la popularité de celle qui avait pourtant refusé de porter l'épée était montée en flèche.
Oui, l'élection de Marguerite Yourcenar comme académicienne est un événement historique à la fois littéraire, politique, mais aussi féministe. Il a fallu attendre 350 ans depuis la création de l'Académie, je vous l'ai dit, par Richelieu, pour voir une femme s'installer sur l'un de ses 40 fauteuils, rejoignant sur ses bancs les célèbres Eugène Ionesco, Alain Decaux, Jean d'Ormesson, Maurice Druon ou encore Claude Lévi-Strauss. Lors de son intronisation, le 22 janvier 1981, c'est d'ailleurs aux grandes écrivaines du passé, comme Madame de Staël, George Sand ou encore Colette, que Marguerite Yourcenar dédie son discours.
Vous m'avez accueilli, accompagné d'une troupe invisible de femmes qui auraient dû recevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au point que je suis tentée de m'effacer pour laisser passer leurs ombres.
Pour elle, l'Académie française n'était pas misogyne. Elle s'est, je la cite, « simplement conformée aux usages qui volontiers plaçaient la femme sur un piédestal, mais ne permettaient pas de lui avancer officiellement un fauteuil ». Magnifique cette phrase. Après Marguerite Yourcenar, plusieurs femmes rejoignent à leur tour l'Académie française. L'historienne Hélène Carrère-Dancausse, qui deviendra secrétaire perpétuelle, l'écrivaine Assia Djebbar et évidemment Simone Veil. Un fauteuil Marguerite Yourcenar en trouve aussi un sur les plateaux. À cette époque-là, au début des années 80, la nouvelle académicienne est une superstar. On se l'arrache à la télé, elle fait la une des journaux. Pourtant, Marguerite Yourcenar continue de vivre dans sa petite maison de bois au bout du monde jusqu'à ce jour du 17 décembre 1987 où hélas, l'immortel devient mortel. Comme éloge funèbre, l'américain Walter Kaiser, professeur à l'université de Harvard, déclarera « Aussi longtemps que des hommes et des femmes s'enquerront du sens de leur humanité, Marguerite Yourcenar est l'un des auteurs vers qui ils se tourneront pour quêter une réponse. »